Voilà pour ce témoignage. On va continuer à parler de la guerre en Ukraine avec un personnage trouble qui devient de plus en plus public. Pardon, on va y revenir. Mais d'abord, j'accueille Nicolas Tenzer. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Le colonel Goya est de retour dans ce studio. Je le disais, on va parler d'un personnage trouble, mais qui cherche de plus en plus la lumière ce soir. C'est l'une des informations du jour, l'une des images du jour. On va voir ça. Yevgeny Prigojine, c'est le fondateur de la milice Wagner, qui prête main forte, on le sait, aux Russes sur le terrain. Prigojine, homme jusqu'ici discret, mais qui a décidé de tout déballer, de tout montrer. Pauline Simonet, il y a un changement spectaculaire.
Oui, effectivement, changement total de stratégie. Jusqu'à fin septembre, il ne reconnaissait absolument pas qu'il était derrière Wagner. C'est pas du tout lui qui avait fondé cette milice, finalement. Donc c'est que il y a quelques semaines qu'il a reconnu officiellement qu'il avait fondé cette milice. Depuis lors, on n'arrête plus de l'entendre, on n'arrête plus de le voir partout. Et cette fois-ci, c'est son QG. Il a inauguré un tout nouveau quartier général.
La milice secrète a désormais un énorme QG.
Exactement. Regardez, il y a Pignon-sur-Rue à Saint-Pétersbourg, donc un énorme bâtiment de 45 000 mètres carrés. Donc c'est un centre, un nouveau siège à Saint-Pétersbourg, un centre alors qui va être consacré à accueillir de nouveaux entrepreneurs spécialisés dans le domaine de l'armement, la défense, des start-up, des entreprises innovantes, donc dans le secteur militaire. Et puis également, c'est l'autre grand secteur sur lequel travaille Yevgeny Prigojine, le secteur des médias et de l'information. Il va accueillir également des jeunes talents de l'information, des blogueurs patriotes, dit-il, pour défendre la politique du gouvernement. Et il y aurait déjà plusieurs centaines de candidatures pour des entreprises qui voudraient s'installer dans ce nouveau siège flambant neuf.
Bon, on va parler de Prigojine aussi, parce que Prigojine...
Vous avez que le logo a changé aussi.
Ah oui.
C'est plus la tête de mort,
c'est un W stylisé. Non, ouais.
On est vraiment dans la respectabilité et dans la publicité. D'un mot, si je peux me permettre, moi, en miroir, ça m'a fait penser spontanément à Elon Musk. Alors, ils n'ont pas du tout le même rapport, mais ces deux personnages qui quand même émergent dans ce conflit ukrainien, l'un et l'autre ont des moyens colossaux financiers. L'un et l'autre aident les États dans cette guerre, parce que SpaceX d'Elon Musk a des satellites qui aident les Ukrainiens aujourd'hui dans la guerre. Elon Musk vient de racheter Twitter, donc l'intérêt pour les médias est parallèle à celui de Prigojine. Et c'est très intéressant de voir ces personnages-là subvenir dans un moment de crise mondiale où les États souverains, en l'occurrence les États-Unis, la Russie et d'autres, ont l'air tout d'un coup un peu faibles face à ces nouvelles puissances émergentes.
Alors, on va reparler de Musk tout à l'heure, mais d'abord Prigojine, Nicolas Tenzer. On verra, parce que au-delà de ce qu'il nous montre là avec ce siège social flambant neuf, il reconnaît lui-même quasiment face caméra. Bah oui, on a essayé d'interférer dans les dernières élections américaines. Oui, on l'a fait, on le fait encore et on le fera encore à l'avenir. C'est dans notre intérêt. Il dit tout. Juste une chose avant d'entrer dans le détail. Pourquoi est-ce qu'il dit tout maintenant? Pourquoi est-ce qu'il ne se cache plus? Pourquoi est-ce qu'il se dévoile?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement de sa part une volonté probablement d'acquérir beaucoup plus de pouvoir de manière quasi officielle. Je veux dire, c'était un homme, d'abord, il a commencé à l'ombre, puisque c'est quand même un repris de justice, arrêté pour des trafics multiples. Puis c'était l'homme de l'ombre, c'était le cuistot de Poutine, le chef, parce que tout simplement, il a eu des contrats extrêmement rémunérateurs, notamment avec l'armée. Voilà, et qu'il a fourni des repas d'ailleurs avariés avec des tas de réseaux de corruption. C'est l'homme de la mafia, la mafia de Poutine, auquel Poutine appartient. Enfin, voilà, maintenant c'est le chef de la coupole, Poutine. Mais là, il y avait un homme qui était un mafieux notoire, qui était un de ses amis, qui l'a recruté. Et effectivement, c'était un criminel. Bon. Et là, il a envie effectivement d'apparaître à la lumière, pour des raisons, à mon avis, de pouvoir, mais aussi dans un contexte où Poutine lui-même et l'ensemble des dirigeants russes ne se cachent absolument plus de l'ensemble des crimes qu'ils commettent. Avant, je dirais, ils pratiquaient les crimes avec discrétion. Mmh. Ils ne voulaient pas que ça sache. Là, ils commettent tous les crimes possibles en Ukraine, en quelque sorte, au plein jour. Et donc, finalement, on a effectivement ce criminel qui apparaît au plein jour. Et ce qui est intéressant avec cet aveu sur l'interférence, c'est qu'en fait, il l'avait toujours nié jusqu'à présent. Il corrobore ce que Robert Mueller, vous savez, le procureur spécial sur les affaires de corruption, pas de corruption en l'occurrence, enfin disons, si de corruption aussi, mais enfin en tout cas de compromission de Trump avec la Russie de Poutine, avait déjà révélé, puisque Prigojine était cité dans le rapport.
Ah bah les renseignements américains ont toujours clairement
dit ça. Et donc là, effectivement, il l'avoue, tout simplement, au-delà de tout de la ministre Wagner, de ses contrats juteux de restauration, il faut savoir que Prigojine, c'est aussi le patron de ce qu'on appelle l'usine de trolls de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire, vous savez, tous ces gens qui arrivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook,
avec
sur,
des faux comptes.
Sur Twitter, avec des faux comptes et qui harcèlent un certain nombre de personnes, qui désinforment, qui manipulent l'information dans les différentes langues, aussi sur ces groupes Telegram, sur des groupes Facebook, etc. Voilà. Et là, on a l'impression qu'il va évidemment encore amplifier tout cela d'après, effectivement, ses propres dires.
Une question sur le poids de Wagner et de Prigojine, colonel Goya. Est-ce que sans Wagner, Poutine est cuit sur le terrain en Ukraine?
Alors, c'est peut-être un peu excessif, mais Wagner, c'est une armée. En fait, l'armée russe, maintenant, est devenue un peu un conglomérat de différentes armées. Il y a Wagner, il y a Kadyrovski, les brigades tchétchènes, il y a des éléments de la garde nationale, dont le patron est un ancien garde du corps de Vladimir Poutine. Il y a les armées du FSB, qui a sa petite force armée. Il y a le GRU, le service militaire, qui a sa petite force armée. Donc, il y a tout un ensemble qui coopère, d'ailleurs, généralement assez mal. Au milieu de tout ça, oui, Wagner, c'est actuellement, c'est finalement la meilleure troupe. C'est une petite armée en miniature qui a sa propre aviation.
Ça veut dire combien?
C'est difficile.
Combien d'hommes?
C'est peut-être 10 000 hommes, qui est présente en Ukraine, et c'est l'armée c'est la force armée qui est finalement certainement la plus efficace actuellement. C'est ceux-là qui sont mieux payés. Globalement, c'est même s'ils recrutent. Prigojine a certains pouvoirs. Il peut recruter dans les prisons. Il peut donner des ordres aux milices des séparatistes, par exemple. Donc, il mène sa petite guerre avec une force qui est relativement efficace. Donc, il a des bataillons qui sont un peu partout. Il y a un bataillon de Wagner à Kherson, par exemple. Mais voilà, le grand front pour Wagner, c'est le Donbass, c'est particulièrement la région de Bakhmut, qu'ils essaient à tout prix de remporter, dont ils essaient de s'emparer depuis trois mois. Donc il y a un certain nombre de petits seigneurs de la guerre, et certainement le plus important de tous. Et Wagner, c'est actuellement la force armée la plus efficace actuellement sur le terrain.
Il y a ce rôle sur le terrain, Nicolas Tenzer, et donc il y a le rôle de désinformation avec ses usines à trolls. En gros, Wagner est capable de recruter des centaines, des milliers de personnes qui vont créer des faux comptes sur Internet pour aller modifier le cours d'une élection. Et aujourd'hui, Prigojine dit, c'est ce qu'on a fait aux États-Unis, 2016, 2020, c'est ce qu'on est en train de faire encore aujourd'hui, il le dit, on continue et on va continuer. Mais en réalité, il y a cette guerre en Ukraine, là c'est une guerre contre la démocratie qu'il mène.
Bien sûr, mais cela dit...
C'est pas uniquement pour faire avancer Trump, etc., pour faire gagner Trump. C'est une guerre pour déstabiliser un pays.
Bien sûr, c'est ce qui s'est passé, je dirais, aussi bien, je dirais, aux États-Unis lors de l'élection de Trump, ou quand même dans un certain nombre d'États cibles, vous avez eu, je dirais, toute une manœuvre pour convaincre les électeurs d'aller voter pour les candidats, je dirais, pro-républicains, dans ce moment local, les grands électeurs, en l'occurrence, bien sûr. Et comme on sait que dans ces États-là, notamment 3 ou 4 États, le fait de balancer de l'un à l'autre, sachant que celui qui a le plus de voix rafle toutes les voix de l'État dans l'élection présidentielle américaine. Concrètement, je ne vais pas réexpliquer le mécanisme en détail, mais enfin, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à quelques voix près, évidemment, un candidat peut l'emporter, même s'il ne dispose pas, c'était le cas de Trump en 2016, de la majorité absolue des électeurs américains. Donc, quand on influence par le biais de désinformation sur Facebook, sur les réseaux sociaux, de publicité.
Donc, le boulot des trolls, c'était d'aller dézinguer Clinton à l'époque.
Bien sûr, mais c'est-à-dire tout simplement parce qu'ils savaient, premièrement, que Trump serait beaucoup plus favorable, évidemment, à la Russie de Poutine. Ensuite, effectivement, tout ce qui peut déstabiliser la démocratie. Au-delà de l'élection, de républicains ou d'électeurs ou de candidats, disons, extrêmes dans les pays européens, tout ce qui déstabilise affaiblit.
Ouais.
Et oui, tout ce qui affaiblit, évidemment, un gain pour le Kremlin.
Oui, parce qu'il y a plusieurs actions différentes. Il y a eu une action très claire, notamment d'agir sur les machines de vote. Les machines de vote américaines, il y a eu des tentatives d'intrusion, des changements de nom, etc. Deuxième action qui a été... Là, c'était directement dirigé contre Hillary Clinton, notamment l'affaire des emails. C'était notamment avec l'aide
On a fait fuiter des emails.
Voilà, exactement, avec l'aide de Wikileaks ensuite. Mais en tous les cas, là, c'était très direct contre démocrate, contre Hillary Clinton. Il y a eu ces faux comptes Facebook, notamment, pour influencer les électeurs indécis qui pourraient être intéressés par Donald Trump. Et puis plus généralement, en fait, il y a par exemple eu un soutien massif, ça peut paraître surprenant, au mouvement Black Lives Matter. Et au début, on peut se demander, mais pourquoi ça n'a pas de sens. Et là, globalement, en fait, on est sur une tentative plus globale de tout ce qui déstabilise l'ordre de toute
tout
façon.
Est bon. Black Lives Matter, vous avez raison, ça a été aussi Occupy Wall Street, chez nous, tout le mouvement des Gilets jaunes, indépendamment de ses origines, qui étaient tout à fait sincères, mais après, qui a été instrumentalisé par le pouvoir russe, ça a été aussi l'histoire des macronismes, ça a été l'état également dans l'ensemble des pays européens et au-delà, de tout le mouvement anti-vaccin ou anti-passe sanitaire ou mesures sanitaires restrictives pendant la crise de la Covid-19.
Rappelez-vous d'ailleurs, Vladimir Poutine avait fait une allusion aux Gilets jaunes en présence d'Emmanuel Macron à Brégançon, en pleine crise des Gilets jaunes, en lui disant justement... En Russie, il n'y aurait pas des émeutes comme celle-là et l'ordre serait maintenu dans mon pays.
Je rappelle quand même, en guise de renvoi à l'ascenseur des déclarations de Donald Trump, au début de la guerre, Donald Trump trouvait que Poutine était un génie qui avait réussi à s'emparer d'un pays pour $2 de sanctions. Déclaration de Trump à l'époque, c'était au mois de février, me semble-t-il. Double révélation ce soir, je voudrais qu'on en vienne à ça. Double révélation ce soir de la presse américaine sur les coulisses de cette guerre en Ukraine, justement. Révélation sur ces Américains qui font pression en ce moment pour que les Ukrainiens soient moins fermés à l'idée de négocier avec Vladimir Poutine. On va voir ça dans une seconde. Mais juste avant, il nous faut parler de ces infos dévoilées par le Wall Street Journal, très intéressantes. Je cite le titre, Antonin, un des principaux conseillers de la Maison-Blanche impliqués dans des discussions secrètes, elles le sont un peu moins ce soir, avec des conseillers de Poutine.
Oui, alors évidemment, c'est un média d'information américain qui sort des informations opportunément. Voilà, mais c'est le Washington Post qui est un média tout à fait respectable et qui parle
de... Là, c'est le Wall Street Journal.
Le Wall Street Journal qui parle de Jack Sullivan, qui est le conseiller pour la sécurité nationale à la Maison-Blanche, qui est vraiment l'homme de Biden, celui qui a toute la confiance de Biden pour parler en son nom des problèmes de sécurité. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire depuis le mois de mars, il entretient une ligne téléphonique, enfin un lien permanent, avec deux hommes clés de Vladimir Poutine, deux hommes qui, comme lui, sont le prolongement de Vladimir Poutine, en quelque sorte, c'est-à-dire Nikolai Patrouchev, qui est secrétaire du Conseil de sécurité, et Yuri Utchakov, qui est conseiller du Kremlin. Et en fait, dans leur dialogue incessant, il évalue le risque, la potentialité de l'utilisation d'une arme nucléaire. Et il essaye de jauger les intentions des Russes dans un dialogue constructif qui est vraiment une sorte de lien permanent qui protège et l'un et l'autre d'une escalade qui ne serait pas maîtrisée. Mais il ne parle pas seulement aux Russes, il parle aussi aux Ukrainiens. Et donc, il était il y a quelques jours à Kiev, où il a rencontré Volodymyr Zelensky. Et là, le message n'est pas tant la désescalade nucléaire que ne pas fermer la porte à l'idée qu'à un moment ou à un autre, il faudra négocier et ne pas fermer la porte à toute idée d'un règlement diplomatique. On le voit en fait sur les deux fronts. Pour lui, l'idée, c'est d'éviter une escalade et une issue fatale, c'est-à-dire une confrontation qui arriverait au pire, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme nucléaire, et il parle aux deux.
Avant de parler des négociations, colonel Goya, si les Américains maintiennent ce lien téléphonique, notamment dans les périodes où ça a chauffé et où les Russes ont brandi la menace nucléaire, c'est bien que les Américains ont réellement pris au sérieux cette menace nucléaire et prennent au sérieux cette menace nucléaire.
Bien sûr, parce qu'il faut la prendre au sérieux et ils l'ont toujours fait. Ils ont c'est le principe du téléphone rouge. Je le rappelle,
il n'était ni un téléphone rouge, on le rappelle.
Qui a été mis en place en 1963 après la crise de Cuba. C'est pas pour rien, hein, c'est pour essayer de désamorcer une nouvelle crise de ce type le plus tôt possible, éviter d'en arriver à cette situation où la crise de Cuba, il y avait des sous-marins soviétiques qui avaient armé des torpilles nucléaires. Bon, et donc c'est on se dit il faut maintenir un lien direct le plus rapide possible. Entre tête de l'exécutif.
Oui, et le plus haut possible.
Le plus haut possible, c'est-à-dire sans passer par la voie.
Au-dessus, c'est les présidents qui se parlent. On ne peut pas, donc on fait en dessous.
Oui, voilà. Donc, le principe du téléphone rouge, c'est on peut envoyer des messages à tout moment aux dirigeants d'en face. Donc, en fait, c'est des téléx. Hein. L'idée, c'est effectivement éviter la montée aux extrêmes, puis une montée souvent par erreur, par exemple, éviter les erreurs, les erreurs d'interprétation. Et ensuite, c'est faire délivrer un certain nombre de messages. Et là, très clairement, depuis quelque temps, on le sait, les Américains insistent auprès, enfin, ils font passer le message, attention, si vous utilisez l'arme nucléaire, il y aura des rétorsions. Voilà. Et donc ce message, il est répété et il doit être le plus clair possible. Et il faut, pour les Américains, essayer d'en persuader le plus possible les Russes.
Nora.
Je fais une petite embardée, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'effectivement le dialogue en fait est nécessaire et on le voit sur ces enjeux-là. Mais il faut se souvenir aussi, quand on revient un petit peu en arrière, de la polémique que Emmanuel Macron avait dû subir quand il continue à parler à Vladimir Poutine en disant il faut continuer à se parler et de toute façon il faut se parler. Et on voit qu'au niveau européen, en fait, ça avait fait débat, notamment du côté polonais. Enfin, il avait eu maille à partir avec beaucoup de critiques là-dessus. Et là, ce qu'on voit, et c'est assez intéressant, c'est qu'au travers de ce téléphone rouge, donc qui n'est ni rouge, ni un téléphone, mais bon, bref, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi une reprise en main complète des États-Unis en fait sur ce dossier. Là-dessus, il faut bien voir à quel point les Européens en fait ont été complètement évincés. On voit qu'avec le temps qui passe, voilà, il y a eu les 40 milliards qu'ont mis les États-Unis. On avait la députée tout à l'heure qui envoyait un signal aux États-Unis en disant donnez-nous plus d'armes. On voit clairement qu'en fait là, on est arrivé à un point où clairement ça se repasse entre les deux blocs historiques que sont la Russie et les États-Unis.
Nicolas Tanzer.
Moi, je pense qu'il y a d'abord il y a plusieurs choses. Discuter, oui, je pense qu'il faut toujours pouvoir discuter, avoir un canal de communication ouvert. Personne ne peut, le blâmer. La question est de savoir à quel niveau ça doit se passer. Est-ce que ça doit se passer au niveau des conseillers ou plus haut niveau, comme dans le cas de Jake Sullivan. À mon avis, c'est probablement la bonne formule. Est-ce que ça doit se passer au niveau des présidents avec le risque d'interprétation politique ? On peut en discuter. Mais, encore une fois, cette discussion, ce n'est pas la même chose qu'un dialogue, ce n'est pas la même chose qu'une négociation. Et je pense que
Je vois bien la différence avec des négociations, mais quelle différence va-t-il entre une discussion et un dialogue ?
Discussion, c'est on entend que, je dirais, tout simplement ce que dit l'autre. Le dialogue, ça suppose d'avoir une interaction et un minimum de confiance. De terrain commun. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un terrain commun. On peut avoir une discussion, comme on dit parfois franche et cordiale dans le discours diplomatique, c'est-à-dire qu'on peut lancer des messages. On n'est pas dans le dialogue qui serait en quelque sorte une manière de se comprendre et de se comprendre, je dirais, parce qu'on est dans des univers quand même profondément différents en termes de valeurs. Et je ne vais pas faire de la philosophie, mais je pense que le terme est très important. Le dialogue, c'est quelque chose de profond. C'est un dialogue interactif. Ça suppose une forme de confiance, de train commun. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce régime russe en particulier, on ne peut pas avoir de lien commun. Le deuxième aspect...
Attendez, je vais m'arrêter juste là-dessus. Je veux qu'on revoie le schéma où on voit qui... parle Jake Sullivan. Sullivan parle à Patrouchev et il parle à Otchakov.
Oui, c'est-à-dire le patron du Conseil de sécurité, voilà. C'est-à-dire à peu près l'équivalent finalement de Jake Sullivan aux États-Unis, hein, qui est aussi le patron comme conseiller national de sécurité. C'est lui qui finalement dirige en fait le NSI américain.
Mais Patrouchev, on sait que c'est un très proche de Poutine. Voilà. On a là deux très proches de Poutine.
On a deux très proches, bien
c'est
sûr.
Bien comme... C'est bien qu'il y a... Alors, le mot confiance n'est pas le bon, visiblement, mais c'est bien qu'il y a quelque chose quand même qu'on se...
Ça veut dire qu'il faut que ce soit au plus haut niveau, surtout si on parle de choses aussi graves que un potentiel risque nucléaire, même si nous avons tous dit ici qu'il ne faut surtout pas l'exagérer, mais enfin, il faut le prendre au sérieux. Je pense qu'il faut que ça se passe à ce niveau. Ça ne peut pas se passer au niveau des directeurs politiques des ministères des Affaires étrangères respectifs. Ça doit se passer à ce niveau-là, de même que, je dirais, l'équivalent chez nous, ce serait le conseiller diplomatique du chef de l'État.
Oui.
Hein, je veux dire Emmanuel Bonne, hein, je veux dire ce serait voilà
le Sherpa du président, là c'est le Sherpa, voilà, Otchakov c'est le Sherpa,
c'est à peu près la même chose. Mais encore une fois, on n'est pas sur des négociations. En revanche, effectivement, le reste, c'est-à-dire que l'idée de ne pas fermer, enfin si ces informations sont exactes, je pense qu'elles sont très malvenues et elles font effectivement en tout cas beaucoup, moi je discutais avec un certain nombre de collègues américains cet après-midi et qui effectivement eux-mêmes ne comprenaient pas quel signal on envoyait de ce côté-là. Et surtout, le signal qui était envoyé, c'était quelque chose qui me paraît assez important, c'est que les États-Unis, pas plus d'ailleurs qu'un certain nombre de grandes capitales européennes, n'ont de stratégie russe de long terme. Ils sont dans l'immédiat. Ils n'imaginent pas, effectivement, la suite des temps. Ils ne voient pas, de ce point de vue-là, que la question n'est pas de négocier la paix. Encore une fois, il n'y a pas de, on l'a déjà dit ici, il n'y a pas de grain à moudre sur quoi négocier à propos de l'Ukraine. Mais surtout, quelle est la position des États-Unis devant le danger global que pose la Russie de Poutine ? Non seulement là, mais aussi en Afrique, mais aussi en Moldavie, mais aussi dans les Balkans. mais aussi dans certains pays d'Asie. Je pense évidemment au Myanmar, avec les liens entre Poutine et la junte militaire qui réprime. De même en Amérique du Sud, par rapport au problème de déstabilisation des démocraties. Et je pense que ça, cette vision de long terme, effectivement, elle manque et c'est probablement une source d'inquiétude.
On va parler des mid-terms. Parce que cette, on est vraiment à un moment extrêmement important aux États-Unis, la veille de ces midterms. Que ce soit les républicains ou les démocrates finalement qui l'emportent, ce seront vraisemblablement les républicains. Mais de toute façon, Joe Biden ne peut pas poursuivre de la même manière cette politique par rapport à l'Ukraine, il le sait, parce que même dans ses propres rangs, il y a des réticences. Il ne pourra pas continuer à signer un chèque de 40 milliards de dollars chaque année. Et lorsque Zelensky a affirmé fin septembre qu'il ne signerait jamais avec Vladimir Poutine, qu'il signerait uniquement avec le futur président de la Russie, ça a posé quand même quelques problèmes. Alors je ne sais pas si c'est un scoop, si c'est ça a été l'information a été donnée volontairement par la Maison Blanche, mais en tous les cas, la logique, ça pourrait être un message tout de même, parce que ça fait peur aux États-Unis, mais jusque quand on est englué dans cette guerre, aux alliés européens qui ont déjà du mal à passer l'hiver avec les crises énergétiques, donc il peut y avoir une espèce de logique en disant vous inquiétez pas, on travaille quand même vaguement.
Je précise, Pauline, ce que vous êtes en train de dire, pardon, mais parce que c'est l'autre révélation de ces dernières heures dans la presse américaine, là on la doit au Washington Post, je cite le Washington Post, les Américains demandent discrètement à l'Ukraine de montrer qu'elle est ouverte à des négociations avec la Russie. L'article est extrêmement intéressant. Le Washington Post, pour le Washington Post, l'idée des Américains n'est pas de pousser véritablement tout de suite à la négociation, mais c'est simplement que les Ukrainiens se montrent moins inflexibles que Zelensky, qui dit et qui répète effectivement qu'il ne négociera jamais avec Poutine, que finalement, il puisse un peu infléchir sa position, assouplir sa position, parce que les Américains craindraient que, précisément, certains se lassent de ce soutien total et sans contrepartie, d'une certaine manière,
Maxime,
aux Ukrainiens.
Mais souvenez-vous qu'il y a quelques mois, on en parlait ici même, c'était quand même la stratégie de Vladimir Poutine que de dire on va se baser sur l'usure évidente, sur l'acceptabilité sociale de cette guerre et du prix en fait à payer. Et effectivement, là, on y est.
Mais c'est pour ça qu'il y a un très grand nombre d'analystes que je disais tout à l'heure, aussi bien américains qu'européens, qui sont extrêmement peu confortables, si j'ose dire, avec cette idée. Parce que, d'abord, encore une fois, comment accepter de discuter avec quelqu'un qui est un criminel contre l'humanité à ce point massif? Est-ce qu'on aurait accepté de discuter avec Bin Laden, avec Abu Bakr al-Baghdadi, avec Hitler, avec Pol Pot? Enfin, je veux dire, on peut faire une liste malheureusement trop longue, hein, mais je veux dire, on est quand même dans des crimes massifs de cette nature-là. Et par rapport aux principes et aux valeurs que, je dirais, tout le monde nous défendons, surtout aux États-Unis ou en Europe, il y a quand même un vrai problème logique. Deuxièmement, discuter avec Poutine, accepter cette perspective de négociation, c'est lui donner raison. C'est continuer la stratégie.
Parce que négocier, c'est lui acheter quelque chose.
Voilà, c'est lui acheter quelque chose. Et c'est finalement continuer dans la stratégie qui était la stratégie totalement absurde et désastreuse qui a conduit finalement à l'attaque contre l'Ukraine. Stratégie d'apaisement que nous avons conduite pendant 22 ans et qui s'est montrée totalement catastrophique. Et donc, c'est ne rien apprendre de l'histoire. Et aujourd'hui, par rapport à une expression un peu courante, hein, vous savez qu'on parle des lourds nuages de la guerre, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce que l'on peut craindre sur l'Ukraine, ce sont les lourds nuages de la paix.
Ce qui peut être surprenant d'ailleurs, c'est dans le terme donné, même si certains estiment qu'il faudrait à un moment donné peut-être négocier, la moins bonne des stratégies, c'est de le dire. Donc c'est pour ça que ça peut être vraisemblablement, évidemment, quand ce type d'information filtre dans la presse, hein, c'est pas forcément Jake Sullivan, mais c'est un certain courant au sein de la Maison-Blanche qui a envie qu'une information paraisse. Mais c'est vrai que c'est pas forcément dans l'intérêt ni de l'Ukraine, ni des États-Unis de donner cette information. Parce qu'on,
oui, l'information n'est pas sourcée d'ailleurs, on ne sait pas très bien d'où elle vient dans l'article que je vous pose.
Peut-être la plus probable quand même, ce que disait Pauline. Et d'ailleurs, on a parlé déjà ici des rapports entre la presse américaine et le Pentagone et la Maison-Blanche. C'est que souvent, quand ce genre d'information sort, elle sort parce que les officiels américains ont décidé de le sortir, parce que ça sert leurs intérêts à un moment donné. Et qu'effectivement, je comprends votre point de vue sur le long terme et le fait qu'on ne puisse pas négocier avec Poutine. Mais aujourd'hui, dans une Amérique avec 8,5% d'inflation et des efforts de guerre qui commencent à être ressentis par la population, on voit bien opportunément le sens politique de ce message à destination de la population américaine.
Ulysse Gosset.
Biden prépare l'avenir et il prépare la catastrophe annoncée, c'est-à-dire la victoire et la prise de contrôle du Congrès par les Républicains qui vont évidemment utiliser l'Ukraine comme moyen de pression, de chantage, de négociation avec Biden sur tout le reste. C'est-à-dire que si Biden veut continuer, et il va continuer à soutenir l'Ukraine, ça c'est évident, l'Amérique profondément est persuadée qu'il faut empêcher la Russie de gagner cette guerre, mais à chaque fois qu'il faudra débloquer un dollar pour l'Ukraine, les républicains diront à Biden, en échange, tu vas nous donner ça sur l'immigration, sur l'inflation, sur la criminalité. Il y a une telle pression aujourd'hui sur la Maison-Blanche, vous savez, il faut rappeler le chiffre, hein, il y a les trois quarts des Américains aujourd'hui qui sont persuadés que la démocratie en Amérique est menacée. Et il y en a 69% qui pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Donc c'est un boulevard pour les républicains. Et il va falloir que Biden négocie. Donc avant d'en arriver là, il prévient d'une certaine manière les Ukrainiens. Il a envoyé.
Biden négocie avec les républicains, pas avec Poutine.
Avec les. Absolument.
Avec si les républicains remportent le Sénat.
Oui, mais de toute façon, le vent de l'histoire, là, il est dans le sens des républicains. Les démocrates sont résignés. Et c'est la raison pour laquelle Biden a envoyé Jack Sullivan, son principal conseiller, à la fois en Ukraine physiquement. Il a fait le voyage de Washington, c'est pas un petit voyage pour un Américain. C'est pour essayer de trouver une issue avec Zelensky pour lui dire, attention, il y a un risque d'épuisement des opinions publiques américaines et européennes. Et si vous ne voulez pas que le vent se retourne contre l'Ukraine, il faut faire des gestes, quoi. C'est-à-dire ne pas apparaître comme celui qui pourrait bloquer une issue. On ne vous force pas à négocier. D'ailleurs, il ne lui demande pas de négocier. Il veut simplement.
Mais de dire qu'il serait prêt éventuellement.
Pourquoi ? Parce que Zelensky a dit un jour cette petite phrase qui a beaucoup fait réagir aux États-Unis, c'est jamais de négociation avec Poutine. Ça voulait dire changement de régime, putsch. Et là, l'Amérique ne peut pas suivre. Donc, il faudrait qu'il, non pas qu'il retire cette phrase, mais qu'il envoie un petit signal pour dire le moment venu, on sera prêt à négocier.
Je voudrais faire la transition avec le sujet qui nous attend dans une seconde. Et vous l'avez, vous en avez déjà parlé, ce sont les élections mi-mandat. Les Américains votent demain. Avant d'en parler, la patronne de RT en Russie, la chaîne RT, Margarita Simonian, voilà sa vision de la politique américaine. Politique dominée par deux partis, on le sait, démocrate et républicain évidemment. Pour elle, c'est pas vraiment une démocratie.
C'est un pays dirigé par deux partis qui diffèrent peu l'un de l'autre. Et aucun autre parti ne peut s'approcher des élections. Et c'est comme ça depuis des siècles. Est-ce cela la liberté et la démocratie ? Ce sont des zombies. Ils sont persuadés que seuls représentent la liberté et la démocratie. Qu'ils sont un modèle, un phare en haut de la colline. Ils ne peuvent même pas concevoir que ce ne soit pas cela la liberté et la démocratie. Que c'est quelque chose de complètement différent.
Deux choses. D'abord, effectivement, les discours de Madame Simonian, c'est un discours assez classique de la propagande russe, qui consiste à dire effectivement que les autres ne sont pas une démocratie, pour mélanger la dictature et la démocratie. C'est-à-dire que faire que les deux concepts soient complètement équivalents. Deuxièmement, Madame Simonian, c'est celle qui disait encore récemment que, de toute manière, il fallait aller envoyer des soldats russes en Ukraine, qu'elle allait profiter des plus belles femmes ukrainiennes, qu'ils allaient profiter de la belle vie là-bas, s'enrichir, etc. C'est elle qui parlait d'insectes, de cloportes en parlant des Ukrainiens. Je veux dire, voilà, il faut quand même replacer. Et c'est elle, d'ailleurs, qui a théorisé la guerre et la guerre de l'information dès les années 2012. Donc, voilà, il faut savoir que c'est un peu
c'est une
chef propagandiste.
C'est une idéologue.
Et c'est une idéologue, c'est une idéologue, absolument.
À lâcher une bombe nucléaire sur l'Ukraine si c'était nécessaire. Mais il y a un autre discours encore plus glaçant, c'est celui de Soloviev, l'autre présentateur vedette, qui s'est adressé à la jeunesse américaine dans un meeting absolument hallucinant, quasiment surréaliste, la jeunesse russe, en leur disant « il va falloir que vous vous engagiez et que vous alliez au front ». Préparez-vous, parce que la patrie est en danger, et c'est vous, la jeunesse russe, qui êtes notre avenir, et donc il va falloir vous engager aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de manipulation et de préparation des esprits à une guerre longue, où il faudra envoyer cette jeunesse russe au front qui est en train de sacrifier.
Oui, disons aussi, il faudrait vous, mesdames, que vous fassiez beaucoup plus d'enfants, parce que si vous en avez beaucoup, comme ça, en gros, si vous en perdez quelques-uns à la guerre, c'est moins grave.
Mais là,
pour vous dire le degré aussi, voilà, le degré aussi de
Alors là, dans l'extrait qu'on a entendu, Madame Simonian met dans le même panier les deux parties en disant que c'est toute la même chose, mais on a entendu un discours tout à fait différent, notamment de Vladimir Poutine lui-même, lors de ses dernières conférences, où il explique à quel point, finalement, il est dans une révolution ultra-conservatrice et que, finalement, il n'est peut-être pas en guerre contre toute l'Amérique, il n'est peut-être pas en guerre contre toute l'Europe. Il a pas cité aucun parti, il n'a pas cité de nom, mais finalement, tous ces groupements ultra-conservateurs pourraient éventuellement un jour se retrouver. Donc on a des discours qui alternent de temps en temps.
Ça nous ramène à la tentation des Russes de faire entente avec Trump au moment où il était candidat. Et la semaine dernière, le New York Times a publié un article absolument fascinant qui raconte comment en 2016, des conseillers de Poutine sont allés voir les Américains pour essayer de conclure un deal à propos de l'Ukraine, pour déjà organiser la partition de l'Ukraine. Donc, ça remonte à loin. Et effectivement, il y a cette tentation d'une alliance entre ce que l'on appelle aujourd'hui aux États-Unis les républicains nationalistes, et qui sont effectivement prêts à s'allier éventuellement avec les nationalistes russes.